Aujourd'hui, samedi 7 mars, le journal Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Le coronavirus, 9 morts et plus de 600 cas. La France au bord du stade 3, plan blanc dans tous les hôpitaux, plan bleu dans les EHPAD. Et les premières mesures contraignantes, fermeture des crèches et des écoles dans le Haut-Rhin et l'Oise, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Le match de Ligue 1 Strasbourg-PSG reporté. Le coronavirus, on en reparle avec l'un de vos invités ce matin, Eric Delvaux.
Oui, à partir de 8h30, ce sera le directeur général de l'Agence régionale de santé Grand Est, Christophe Lannelog. L'invité auparavant, 8h20, Martial Foucault pour les municipales, son livre « Maire au bord de la crise de nerfs » et 7h50, Patricia, votre invité.
Colombe Schneck pour Nuit d'été à Brooklyn.
Dans ce journal encore, nous sommes sur place à Idlib en Syrie. Notre reporter Aurélien Colli nous raconte les civils pris au piège. Et puis l'affaire Le Squarneck, le chirurgien pédophile, nouvelle révélation de la cellule enquête de France Inter ce matin.
France Inter. La contagion s'étend donc en France. Au dernier bilan, le coronavirus a fait 9 morts.
Et on a franchi la barre des 600 contaminations, près de 200 nouveaux cas en une seule journée, 39 personnes actuellement dans un état grave. Le passage au stade 3 de l'épidémie, le dernier, n'est donc plus qu'une question de jours. Même si ce sera du cas par cas, il faut s'attendre à quelques changements dans notre vie quotidienne, suspension de transport en commun par exemple. Hier soir, le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé que c'était inévitable, mais a tenu aussi à rassurer.
Les mesures du stade 3 seront déclenchées sur tout le territoire quand ce sera nécessaire, pas avant. Je tiens d'ailleurs à dédramatiser le passage au stade 3. Ce stade, je le rappelle, correspond simplement à une circulation active du virus sur l'ensemble du territoire. Mais notre système de santé a les moyens d'y faire face. Lorsque le stade 3 adviendra, nous prendrons les mesures nécessaires pour répondre à l'épidémie, pour prendre en charge les malades et assurer la continuité de la vie économique et sociale du pays, y compris la vie scolaire, qui devra continuer.
Et sans attendre ce stade 3, hier soir, le gouvernement a déclenché le plan blanc dans tous les hôpitaux de France, le plan bleu dans les EHPAD. On sait que ce sont les plus vulnérables, les plus âgés qui sont le plus fortement touchés par ce coronavirus. Alors pour l'instant, même si les foyers se multiplient, ils restent encore localisés. 6 clusters, comme on dit, 6 regroupements de cas. La Haute-Savoie, avec 2 foyers de contamination, le Morbihan, l'Oise toujours, mais aussi l'Alsace et notamment le Haut-Rhin, devenu le gros point rouge sur la carte. 136 contaminations depuis un rassemblement évangélique fin février à Mulhouse. 2000 fidèles rassemblés pendant une semaine. C'est devenu le foyer épidémique le plus contagieux depuis le début de la crise. Thibault Lefèvre.
6 personnes hospitalisées et au moins une quarantaine d'autres positives au coronavirus un peu partout en France. L'église de la Porte Ouverte chrétienne compte ses fidèles contaminés. Et selon sa porte-parole, Nathalie Schneubelen, ça ne devrait pas s'arrêter là.
Ce sont essentiellement des Français de régions différentes. Nous avions aussi un tout petit groupe de la Guyane. Il y avait peut-être une trentaine de personnes de langue allemande, donc à la fois des Suisses hein, de langue alémanique et puis des Allemands. Il y avait peut-être d'autres pays, mais je ne suis pas au courant personnellement.
Un recensement approximatif, car la semaine de prière et de jeûne était ouverte à tous, sans inscription préalable. 7 jours de rassemblement avec des fidèles qui venaient parfois pour seulement quelques heures et sans prendre de précautions particulières.
La semaine du 17 février, comme on n'avait pas de mesures à prendre, ce qu'on fait, on se dit bonjour. Alors, soit en se serrant la main, soit en se faisant la bise. On peut se tenir par la main, donc on ne pouvait vraiment pas soupçonner qu'il y avait un virus au milieu de nous.
Aujourd'hui, les pratiques ont changé, les membres de l'église travaillent de chez eux et les rassemblements sont suspendus.
Et dans ce département, tous les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits, quels qu'ils soient, à commencer par le match de cet après-midi, 17h30 au stade de la Méno. Le PSG devait affronter Strasbourg, rencontre reportée, c'est la première fois pour un match de Ligue 1. Décision radicale également, la fermeture pour 15 jours des crèches, des écoles, des collèges, des lycées, des facs, même consigne dans l'Oise. Autre décision marquante hier, celle du ministre de la Santé qui a signé cet arrêté pour autoriser les pharmacies à produire leurs propres solutions hydroalcooliques. Faire face donc à la rupture de stock et arnaque. Ça va souvent ensemble, exemple avec les masques de protection. Inutile quand on n'est pas malade, il n'empêche certains surfent volontiers sur la vague. Sur les sites de vente en ligne, par exemple, pléthore de masques contrefaits, parfois vendus à prix d'or tout le temps. Le site du Bon Coin a décidé de faire le ménage. Ce genre d'annonce est désormais retiré. Un acte civique pour son directeur général, Antoine Joutot.
Quand on a commencé à observer une montée des volumes de plusieurs centaines de dépôts sur ces masques, on a décidé très rapidement de surveiller aussi les prix. Quand on a vu aussi que les prix commençaient à être incohérents, on a pris la décision de stopper. On a mis en place des algorithmes spécifiques de contrôle. Donc voilà, c'est un engagement qu'on prend et on surveille. De temps en temps, il y en a qui sont postés, mais on les supprime tout de suite. Mais aujourd'hui, on est très strict sur le sujet parce que ça nous semble immoral. Voilà, donc c'est juste une décision citoyenne, d'entreprise citoyenne. C'est une décision inédite. On laisse en général les Français revendre leurs objets sans aucun problème. Mais là, c'est aussi notre rôle de pas encourager de la spéculation, de ne pas encourager la revente, les profits sur une situation sanitaire qui inquiète tout le monde.
Le directeur général du Bon Coin, joint par Sébastien Sabiron. La panique de se voir confiné génère la pénurie, parfois l'hystérie, bagarre géante ce matin par exemple dans un supermarché australien pour du papier toilette. Pendant ce temps, en Chine, le virus semble reprendre du poil de la bête. Au total dans le monde, 3000 morts, 100 000 personnes contaminées. Comme ici sur le Grand Princess, un paquebot de croisière coincé au large de San Francisco, 21 malades à bord.
7h36, c'est un reportage rare que nous proposons maintenant. Non.
Oui, alors que le conflit dans le nord-ouest en Syrie a jeté près d'1 million de civils sur les routes, que les ONG parlent de la pire catastrophe humanitaire en 9 ans de guerre, notre reporter Aurélien Colli a pu entrer dans ce dernier bastion rebelle, bombardé par les forces de Bachar el-Assad et les Russes depuis le mois de décembre. Idlib l'a sacrifié.
Entrer dans Idlib, c'est jouer d'abord le jeu d'une administration civile dominée par les islamistes, remettre son passeport en échange d'une protection ou au moins de quelques garanties de sécurité. Entrer dans Idlib, c'est trouver une ONG locale qui va servir de guide dans cet espace géographique démembré et cette société en lambeaux pour se faire ouvrir les portes des hôpitaux où les blessés s'entassent, combattants ou civils victimes de bombardements, pris en charge par des médecins qui ne sont pas assez nombreux et par au plus urgent alors qu'il manque de tout. S'enfoncer dans Idlib, c'est avaler des kilomètres d'une route anarchique où se frôlent des vieux camions, des minivans, des troupeaux, des tracteurs ou encore des motos transportant des familles entières. C'est longer des champs d'oliviers ou des terrains récemment inondés où des milliers de Syriens se sont pourtant réfugiés, entassés sous des tentes, des bâches où l'humidité, le froid, le manque de nourriture sont la norme. C'est croiser des enfants pieds nus en guenilles, le visage et les mains sales, mais quand même souriants. Arriver à Idlib, c'est découvrir des mosquées ou les coursives d'un stade transformées en dortoirs. C'est écouter les récits d'une population d'exilés, exténuée par la guerre et la précarité. Ryan Lee, Aurélien Colli, France Inter.
Et le cessez-le-feu décrété cette semaine entre les Turcs, soutien des rebelles, et les Russes, soutien de Bachar el-Assad, devrait offrir un peu de répit à ces populations. Encore faut-il que ce cessez-le-feu soit respecté. Woody Allen, rattrapé par les scandales sexuels, le groupe Hachette qui cède à la pression. Les mémoires du réalisateur américain devaient être publiées dans un mois aux États-Unis, un mois et demi en France. Publication annulée in extremis, on l'a appris hier.
Nouvelle révélation dans l'affaire Le Squarnec.
Hier, après les informations de la cellule investigation de Radio France sur deux médecins délinquants sexuels qui ont travaillé dans les mêmes hôpitaux que Joël Le Squarnec, l'un d'eux a été suspendu par l'hôpital de Jonzac en Charente-Maritime. Et ce matin, on apprend qu'à l'hôpital de Quimperlé, où Joël Le Squarnec a également travaillé, beaucoup connaissaient les penchants pédophiles du chirurgien. Laetitia Chérel, votre enquête avec Margot Steve montre qu'un syndicat, la CGT, a eu de sérieux doutes sur les comportements du chirurgien dès 2006.
Pour bien comprendre, il faut remonter en 2005. Cette année-là, Joël Le Squarnec est chirurgien à l'hôpital de Quimperlé et il est condamné pour téléchargement d'images pédopornographiques. Il écope de 4 mois de prison avec sursis, sans obligation de soins ni d'interdiction d'exercer. Quelques mois plus tard, un psychiatre de l'hôpital, Thierry Bonvalot, apprend cette condamnation. Il alerte la direction et en parle aussi à la CGT. Didier Kema est responsable de la CGT à l'hôpital de Quimperlé à l'époque. Il n'en est pas resté là.
On a mené aussi une petite enquête auprès de nos collègues qui travaillaient au bloc. Ils nous ont dit aussi qu'il avait une pratique un peu spéciale par rapport aux autres chirurgiens qui n'allaient jamais seuls, très rarement, que lui ne voulait pas du tout qu'on l'accompagne. On a pris rendez-vous avec le directeur. Donc il nous a dit qu'une enquête auprès des collègues chirurgiens était en cours pour voir ce qui se passait, quoi. Il ne nous a jamais donné l'aboutissement de cette enquête.
Une enquête dont nous n'avons trouvé aucune trace. L'hôpital se contente alors visiblement d'informer l'Ordre des médecins et la DAS. À ce niveau-là non plus, aucune enquête n'est ouverte à notre connaissance. contactés. L'Agence régionale de santé n'a pas souhaité nous répondre.
L'affaire Le Squarneck, d'autres révélations tout à l'heure à 13h20 dans Secret d'Info et sur notre site aussi franceinter.fr. En bref, rapidement pour finir, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, voici une réclamation du secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel. Il veut rendre obligatoire le congé paternité, mère de toutes les batailles, dit-il, en ce qui concerne l'égalité homme-femme.